Michel Potvin est au bout du fil, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel. Allô, allô. Il n'est pas là?
Coudon, il est parti au Québec, je vais le rappeler.
Bonjour, je suis reviendre.
Vous êtes reviendu. Bon, tant mieux. Alors, allons-y donc avec Statistique Canada qui publie ce matin de nouvelles données d'inflation.
Oui, l'inflation, pas des super nouvelles. L'inflation au Canada est à 2,4% en septembre sur une base annuelle. Elle était à 1,9% pour le mois d'août, donc une hausse. L'alimentation, c'est dû en partie à l'alimentation, là, l'inflation annuelle est de 4% versus 3,5% en août. Au Québec, on a une inflation plus élevée que dans le reste du Canada. On est à 3,3% alors qu'en août, on est à 2,7%. Donc, au Québec, l'inflation est assez élevée. Puis, c'est causé en partie par les loyers. Là, au Québec, le Québec a connu la plus forte hausse des prix du loyer par rapport aux autres provinces canadiennes, une augmentation sur une base annuelle de 9,6%, c'est énorme. Alors qu'ailleurs, au Canada, là, on est plus de 3 ou 4%, là, dépendamment des provinces. L'autre chose qui affecte l'inflation, on a déjà parlé dans les autres mois, c'est la taxe carbone qui a été éliminée au Canada. Ça a fait baisser le prix de l'essence ailleurs au Canada. Puis comme on regarde, ça fait quelques mois de ça, mais quand on regarde sur une base annuelle, bien, ces mois-là sont encore dans la dernière année, donc ça affecte l'inflation. Donc les prix de l'essence ont baissé plus ailleurs qu'au Québec, puis c'est ce qui explique en partie pourquoi l'inflation est également plus élevée au Québec qu'ailleurs au Canada.
Alors, il y a un impact sur le taux d'intérêt?
Mais la Banque du Canada doit donner une décision sur les taux d'intérêt le 29 octobre prochain, mercredi prochain. La dernière décision de la banque, elle avait baissé les taux d'un quart de point à 2,5% après trois décisions là, où elle avait maintenu les taux à 2,75. On s'attend à ce que les taux, malgré la hausse de l'inflation, à ce que les taux baissent d'un quart de point la semaine prochaine. Le marché du travail n'est pas super vigoureux au Canada. On a un taux de chômage assez élevé à 7,1%. Au Québec, il est plus faible à 5,4, mais au Canada, 7,1. On a déjà connu plus élevé, mais on a déjà aussi connu plus faible. Donc, on s'attend à ce que les taux d'intérêt baissent la semaine prochaine. Il reste encore 8 jours. On va voir ce qui se passe d'ici là.
D'accord. Et vous aviez des choses à dire sur nos voisins du Sud?
Oui, nos voisins du Sud, ça bouge un peu. C'est toujours excitant de regarder ce qui se passe aux États-Unis avec la politique. Excitant, mais parfois décourageant aussi. Le gouvernement fédéral, on n'a pas parlé beaucoup, là. Il y avait d'autres sujets, mais depuis le 1er octobre, le gouvernement fédéral est paralysé. Qu'est-ce que ça veut dire? Aux États-Unis, on a une loi qui limite la dette maximale du gouvernement fédéral. Et cette loi-là donne un niveau en dollars. La dette ne peut pas dépasser tant. Évidemment, le gouvernement dépense plus, puis de façon périodique, ils doivent voter une nouvelle loi qui augmente le plafond de la dette. Qui vote cette loi-là? C'est le Sénat qui doit voter à 60% pour augmenter le plafond. Les Républicains ont 52%, si je ne me trompe pas, du Sénat. Donc, pour faire augmenter le plafond de la dette, ils ont besoin de l'appui de 8 sénateurs démocrates. Et puis, c'est là que ça se corse parce qu'ils n'ont pas cet appui-là. Alors, depuis le 1er octobre, on a voté 10 fois pour rehausser le plafond de la dette. Les 10 fois, ça a été rejeté. Et ce qui arrive, c'est que le gouvernement fédéral doit arrêter, couper énormément dans ses dépenses, donc arrêter de dépenser. Donc, ça fait une espèce de paralysie du gouvernement fédéral. Ça affecte les chèques de bien-être, les contrôleurs aériens, les statistiques du gouvernement. Peut-être juste mentionner que on appelle ça le shutdown, là, cette paralysie du gouvernement fédéral, c'est la troisième plus longue de l'histoire. L'histoire est relativement courte parce que cette loi-là, ça date de 1980. Mais tout de même, en 1995, sous Bill Clinton, il y avait eu 21 jours de paralysie. Puis en 2018-19, lors du premier mandat Trump, on était allé jusqu'à 35 jours. Là, on est rendu depuis à une vingtaine de jours, là, 20-21 jours, c'est depuis le 1er octobre. Donc, on est la troisième plus longue ou deuxième plus longue maintenant en période de paralysie du gouvernement. Puis, aucune des deux parties semble vouloir céder. Les démocrates disent qu'ils vont voter pour augmenter le budget si les républicains acceptent de ne pas éliminer les crédits pour la santé, la couverture des soins de santé pour les gens les plus démunis. Les républicains ont coupé là-dedans avec l'espèce de gros, la grosse loi de Trump, le Big Beautiful Bill, là, comme il le disait. Alors, donc, c'est un bras de fer, c'est une guerre d'attrition, puis il y a des gens qui payent pour ça, puis ouais. À ce moment, on voit pas la fin de ça. L'administration Trump a commencé à mettre des gens à la porte, puis on cible des gens qui s'occupent de programmes dans des comtés démocrates ou des personnes démocrates, donc il y a beaucoup de politique là-dedans, c'est pas très beau, malheureusement. Et puis, je disais, bon, les statistiques, peut-être une petite dernière nouvelle en passant, les statistiques du gouvernement étaient pour être affectées parce que, par exemple, le Bureau of Labor Statistics qui publie les chiffres sur le chômage, par exemple, et l'emploi, ça relève du gouvernement fédéral. L'inflation américaine va sortir pour le mois de septembre, ça va sortir le 24 octobre, donc ce vendredi-ci. Est-ce que l'arrêt du gouvernement va affecter la production des statistiques? Est-ce qu'on va en avoir moins? Puis ça, c'est sur le processus de produire les statistiques, mais aussi, ça va être intéressant de voir est-ce que l'inflation, qu'est-ce qui arrive avec l'inflation? On sait que les tarifs, il y a des compagnies qui commencent à augmenter leur prix dû aux tarifs imposés par Trump puis les mesures de représailles par les autres pays. Donc, les entreprises commencent à augmenter leurs prix. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'inflation, puis à terme sur les taux d'intérêt américains? À suivre pour les États-Unis, hein, mais ça ne va pas super bien. Quand on se compare, on se console. Mm-hmm.
Au Canada, l'inflation remonte à 2,4. On a annoncé ça autour de 9 heures. Oui.
C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, versus pour septembre, versus 1,9 en août.
OK, c'est correct. Et donc, aussi... c'est parce que je disais trois choses en même temps. Il y a le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui affirme qu'une entente commerciale avec les États-Unis est possible. Lui qui va rencontrer le président Donald Trump en Asie la semaine prochaine, même si ça fait longtemps que c'est possible. Mais d'après ouais, Antoine Trépanier de la Presse Plus, ça pourrait se faire la semaine prochaine. On verra.
Ça pourrait se faire. J'imagine que je ne sais pas si le Mexique va être laissé de côté. Notre accord actuel inclut le Mexique. Parce qu'on va avoir une entente bilatérale ou trilatérale incluant le Mexique à suivre, mais l'économie des trois pays est fortement intégrée. Je pense que ce serait préférable d'inclure les trois pays, faire un bloc nord-américain, mais à suivre, comme vous le dites.
Oui, on s'en reparle. Merci beaucoup, Michel.
À la semaine prochaine. Au revoir.